Avouez que ça donne le goût que ça reparte, là, ce qu'on vient d'entendre avec la voix de Michel Lacroix et tout ça. Alors, l'ambiance est là, tout le monde est prêt pour le redémarrage des activités dans le hockey professionnel. Et on va en parler tout à l'heure, puis on va s'amuser un petit peu sur vos projections de buts, entre autres pour Cole Caulfield. Sera-t-il un candidat au titre de recrue de l'année? Mais bien d'autres enjeux dont on va discuter à l'instant même. Et pour ça, nous accueillons sans plus tarder Ray Lalonde. Bonsoir, Ray.
Bonsoir, Mario.
Ray, alors, plusieurs sujets que nous allons aborder ensemble, et on l'avait pas vraiment imaginé comme ça, mais il reste que je pense une belle occasion d'y revenir parce que plusieurs collègues ont écrit là-dessus au cours des dernières heures où se sont prononcés. Philippe Lefebvre du côté d'RDS. Nous, on l'avait fait la semaine dernière. Et tout est, normalement, c'est en ci de l'année que le tournoi de golf. Bon, il n'y a pas de tournoi de golf. C'est le moment de l'année où le président prend la parole ou le directeur général prend la parole du Canadien de Montréal et les deux annoncent leur couleur. C'est rare qu'il y ait des grandes déclarations, mais ça peut être une occasion de dire « on a envie de faire du dommage en série, we mean business » ou peu importe, ça donne le ton. Bon, pour avoir communiqué avec le Canadien, pour avoir des entrevues avec tous les gens dont on parle, j'ai eu l'occasion de faire une entrevue avec Dominique et je l'en remercie de sa disponibilité, de même que l'opportunité qu'on m'a donnée du côté des communications. Et du côté de Jeff Monson et Marc Bergeron, on dit qu'il n'y a rien de prévu à cet effet, aucune sortie ou entrevue pour l'instant. Et tout ça alors qu'on sait que la situation contractuelle de Marc Bergevin, c'est pas clair. Comment t'interprètes ça, Ray? C'est quoi ta lecture de cette situation-là? Penses-tu que c'est déjà réglé et qu'ils sont sur le bord de nous annoncer? Ou ça nous indique une négo un petit peu plus complexe que prévu? Ou une période d'attente des deux bords ou souhaitée par l'un des deux intervenants?
Mario, je pense que c'est difficile de spéculer là-dessus parce qu'on a eu différents... feeling, si on veut, là, des sentiments depuis le printemps dernier, des rumeurs comme quoi le contrat n'était pas une priorité, des rumeurs comme quoi M. Bergevin lui-même était peut-être pas intéressé à poursuivre. Alors, tu sais, on s'en va dans tous les sens avec ça. Une chose qui est claire, la saison est commencée. Le camp d'entraînement débute sur la glace demain, tournoi de golf a eu lieu. C'est un peu une occasion ratée. Moi, je préconise toujours, puis c'est la NBA qui m'a enseigné ça il y a quand même 25 ans, là. À savoir, transparence, authenticité, régularité, fiabilité, confiance avec les journalistes. C'est pas toujours facile de tout révéler. On veut pas tout révéler non plus, bien sûr. Mais les journalistes qui font leur travail, surtout en 2021, parce que les médias sociaux qui ont un rôle à jouer, puis chacun a son propre micro, les joueurs communiquent, tout le monde gère leur message. Mais les médias traditionnels, que ce soit les diffuseurs qui payent des millions de dollars pour avoir les droits là, de couvrir une équipe, une propriété, quelle qu'elle soit en Amérique du Nord. Tu sais, aujourd'hui, je regardais beaucoup les « media day », entre guillemets, Mario, des autres équipes de la Ligue nationale, qui ont donné accès, que les joueurs ont repris leurs photos, toute la paperasse nécessaire en termes promotionnels, puis rencontre avec les médias pour un peu lancer la saison.
Il y a que les Canadiens qui n'ont pas rendu le monde disponible parce que je voyais Austin Matthews, puis Kyle Dubas, puis tout le monde répond. Il y a juste à Montréal que ça n'a pas eu lieu. Donc, donc on peut dire, ou on peut l'interpréter ainsi, c'est qu'on s'est servi du protocole de la COVID pour se tenir loin des médias.
Ben, en tout cas, moi, je pense qu'on rate notre coup à chaque fois qu'on fait ça, Mario. Tu sais, c'est sûr que le marché montréalais de médias est immense. L'appétit ici, là, c'est énorme. Les journalistes, il y en a de nombreux, et de nombreux comme nulle part ailleurs. C'est à part à Toronto, même s'il y a beaucoup d'intensité à New York, les journalistes sont répartis entre 5, 6, 7 sports différents. Là. Bon. Mais à Montréal, là, c'est intense. On le sait que les gars ont un travail à faire. L'économie ici, dans le sport, ça vit grâce aux Canadiens. Les journalistes, puis les recherchistes, puis les blogueurs, puis les gens sur les médias sociaux, puis les photographes, puis les gens dans la diffusion-production, écoute, ils ont des emplois à cause des Canadiens. Fait qu'il faut pas se le cacher. On en parle 12 mois par année aussi. Fait qu'il faut s'entraider. Il faut nourrir. Il faut alimenter. Puis, une occasion comme un début de saison, Mario, tu sais, je comprends qu'il y a des règles de la Ligue nationale. Je comprends que les joueurs ne pouvaient pas jouer au golf avec les invités. Je comprends qu'on voulait limiter le contact. Mais écoute, il y a d'autres façons de régler ça puis de solutionner ça. Il faut être créatif, il faut innover.
Mais là, tu nous dis que les autres équipes ont fait des choses, là, c'est ça?
Ben
ça.
Oui.
Bon, ben
oui.
Là, c'est quand même...
Ils ont fait des choses. Fait que là, mais ils ont fait des choses avec des mesures puis les protocoles locaux. Ben oui, bien sûr. Là, on n'est pas en train d'aller prendre un café ensemble tous les joueurs et les journalistes. Ce que je veux dire,
c'est que
Mario, c'est le message, c'est le principe. Tes journalistes vont t'aider toute l'année à vendre ton produit. Ils vont t'aider à véhiculer ton message. Ils vont être durs avec toi. Ils vont te critiquer. Mais ils vont aussi s'enivrer et enivrer le public. Et ils vont créer cette espèce de momentum puis d'énergie. Alors, c'est ça la business. C'est un produit de divertissement. Fait que les Canadiens, là, le jour où ils confirment et constatent et reconfirment que prennent un peu les gens pour acquis puis les journalistes pour acquis parce qu'ils sont tellement populaires, je vais te faire remarquer une chose. C'est pas une hausse de popularité depuis une dizaine d'années. Ça, c'est définitivement pas le cas. C'est beaucoup plus modeste que c'était. Puis on a même eu une finale de la Coupe Stanley, puis c'est vrai que c'était la COVID, mais on a quand même eu besoin d'une Coupe de série pour démarrer l'énergie à Montréal au printemps-été dernier. Ça reflète la consommation différente. Ça reflète l'état d'esprit des gens. Ça reflétait la pandémie aussi. Tu sais, puis je blâme pas juste le club, mais le club, pour qu'il en fasse plus. Ils n'ont pas de choix, là. On est en 2021, puis les gens ont toutes sortes de choix à faire. Regarde aller la saison de la NFL, regarde aller le tennis au US Open, puis des Québécois qui s'imposent. Mario, il y a toujours de quoi de bon à regarder. Fait que si tu décides que toi, tu vas restreindre l'accès en début. Moi, je veux savoir c'est qui David Savard. Cédric Paquette. Je veux les entendre. Je veux les voir de front, là, avec les couleurs. Fait que j'ai besoin de tout ça, là. C'est important. Bon, tu vas me dire, ouais, ils ont tapé des choses qui vont repasser pendant les matchs. Mario, il y a 7500 spectateurs prévus pour les matchs. Il y a beaucoup, beaucoup du grand public qui vont être encore une fois empêchés, interdits de pouvoir accéder au match des Canadiens avec un billet pour un match individuel. C'est la santé publique qui nous impose ça. Fait qu'il faut que tu combattes tout ça. C'est ça mon point.
Et comment tu t'expliques que donc c'est pas cette direction-là qu'on prend?
Et j'ai de la difficulté à expliquer ça. Je peux pas croire que c'est une négociation de contrat de Marc Bergevin qui explique pourquoi Marc Bergevin et Jeff Molson ne veulent pas parler de leur club. Écoute, réponds à la question. Le contrat pas signé, je suis en train de négocier. Ou ben non, on négocie pas, on en reparle plus tard. On s'est entendu sur autre chose. C'est tout, c'est correct? Bon, parle-nous de ton club, là. Parle-nous de tes joueurs, tes acquisitions, tes voix là devant tes yeux. Ça a l'air de quoi? T'sais, non, mais c'est important, Mario, ça.
Puis les sujets que tu veux pas aborder, tu te prépares parce que c'est. Nous autres, on a le droit de poser toutes les questions. Puis eux, je dis toujours, la réponse vous appartient. Et donc, s'il y a deux, trois sujets litigieux, t'étasses, puis tu trouves une façon de répondre. Puis comme tu dis, tu continues à entretenir le reste des autres sujets. Puis je pense que même qu'ils sont entraînés à le faire, ils savent comment faire ça. Les gars deviennent des bons.
Ils sont bien guidés.
Ben oui, exact.
Mais Mario, tu sais, c'est une philosophie. C'est une philosophie d'entreprise. Est-ce qu'on est là, transparent, ouvert, disponible, accessible, abondant? La réponse est non. Fait OK, correct. Tu choisis de gérer ton équipe comme ça. Tant mieux. Tant qu'il y a des gens qui achètent des billets, ils sont là, OK, on comprend. Mais une chose qui est claire, là, je peux te le dire, que la majorité des équipes professionnelles aujourd'hui, dans tous les sports confondus, ils ont opté pour l'ouverture. Ils ont opté pour l'accessibilité. Ils ont opté pour cette espèce de générosité pour qu'on puisse contribuer là, à repopulariser le sport, ce sport-là. Fait que la Ligue nationale, Mario, je te répète, ils ont fait un media day la semaine passée. T'as vu Crosby, Ovechkin, disponible. Ils étaient ensemble. Crosby commentait sur l'objectif d'atteindre le record de Gretzky pour Ovechkin. T'sais, non, mais ça, c'est des bonnes nouvelles. Là.
Et c'est des points de discussion qui font du millage dans tous les talk shows de sport en Amérique et ailleurs. C'est ça l'idée. Et t'as raison. Un a besoin de l'autre. Parfois, peut-être, quand on est au sommet de la pyramide, on peut peut-être s'imaginer qu'on n'a pas besoin
des
autres ou de personnes. Mais bref. Et c'est sûr que d'avoir atteint la finale, puis tu sais, le produit sur la glace, c'est toujours la première carte de visite. Puis là, tu viens d'avoir un club qui gagne la finale. Tu as des nouveaux visages qui, tu sais, le New Kid in Town, Caulfield. Ça, c'est tout du bon marketing. Est-ce que est-ce que ça efface tout le reste là, qui nous laisse parfois sur notre appétit?
Je vais te donner deux réponses. Caulfield, c'est un bon exemple. Écoute, tu sais, il est arrivé là, en trombe là, pendant les séries ou juste avant la fin de la saison. Mario, on n'a pas vraiment vu Caulfield s'exprimer publiquement, là, tu sais, all out devant les médias. Puis qu'on puisse connaître le jeune homme, sa personnalité, son énergie, puis on va l'aimer encore plus.
Connais-tu Carey Price, toi, après...
Non, exactement.
Après 15-16 ans, qu'en 2005, 16-17 ans, on le connaît pas.
Mais Canadien vise sur des... sur des nouveaux visages, sur un virement, virage jeunesse, avec plein de jeunes bons prospects. Oui. C'est merveilleux, là. Il y a quand même beaucoup de belles choses qui ont été faites. Alors, l'atteinte de la série finale a effacé une saison médiocre l'an dernier. Puis, quelques bévues sur le plan public cet été, ont effacé un peu le momentum de la finale de la Coupe Stanley. Fait que finalement, ce que je veux dire, Mario, t'as toujours besoin de créer du momentum. T'as toujours besoin de pomper de l'énergie dans ton marketing. Tu vas me dire, ouais, Ray, c'est parce que toi, tu fais du marketing, puis non, non, écoute, c'est pas du marketing que je fais, c'est run une business. C'est comme ça qu'on run une business. Si on veut continuer à vendre, puis à populariser, il faut que tu gardes ces concepts-là en tête. Le public ici, ils n'ont pas assez des Canadiens, ils donnent-leur en plus, c'est tout.
Mm-hmm. Alors, c'est vraiment intéressant, puis c'est là qu'il y a deux façons de penser de l'autre côté de la clôture. J'ai envie de te demander, quand tu étais de l'autre côté de la clôture, tu veux dire, t'avais-tu envie d'en donner plus ou tu trouvais que c'était trop, puis que, tu sais, c'était... Ou des fois, quand le Canadien était très, très sollicité, t'avais-tu envie de couper le contact parce que le monde en demandait trop, puis il y a...
Écoute, Mario, là, tu sais, j'ai fait 10 ans, là, puis... Il fallait que les gens me retiennent pour pas en faire plus, puis pas pomper encore davantage. Puis honnêtement, le track record, le portfolio est là, pour te dire qu'on a pris une équipe désabusée en 2001. Puis moi, quand je l'ai laissé en 2011, je pense pas qu'elle était désabusée. On menait toutes les catégories de commercialisation, de marketing, de promotion, de vente, d'assistance, de moyenne de billets, de moyenne de revenus. On pompait ça numéro 1 au classement dans toutes ces catégories-là. Fait que forcément, là, c'est parce qu'on était pas mal généreux. Alors, est-ce qu'on avait des augmentations de prix? Ben oui. Est-ce qu'on avait des choses parfois que les gens aimaient pas? Ben oui. Des fois, ils trouvaient qu'on jouait trop de musique en anglais. Puis, OK. Non, mais c'est correct, là. T'es pas parfait. Tu te fais critiquer tout le temps. Mais en tout cas, il n'y a pas personne qui va dire qu'on se retenait pour pas aller chercher l'engouement du monde avec des efforts de générosité, des efforts gratuits, le fan club, le jeune garçon, jeune fille qui patine sur la glace avant le match, tu sais, les présentations d'images suivies de vidéos sur la glace, Youpiville, tu sais, tu comprends-tu, la mascotte, l'arrivée, tu sais, honnêtement, ça, c'était des choses qui coûtaient rien aux gens, là.
Les cérémonies de match d'ouverture, ça a comme quasiment pris le bord. Les gens aiment ça aussi, la facture, là, de l'emballage, du show, la voix du chef,
ça fait
la musique.
De l'expérience, Mario.
Ouais, alors, je vais émettre un souhait pour compléter là-dessus, c'est que la tendance positive qu'a pris le département hockey avec les résultats récents et le pool de jeunes joueurs qui se pointent, ben, j'espère que dans le reste, on va mettre ça à niveau, puis que dans le département de l'accessibilité, de la communication,
La
mise en marché, puis davantage, moi j'aime ça le show, là, l'avant-show. Tu sais, je dis pas d'être Vegas, là, mais avant que Vegas arrive, c'était à Montréal, la référence.
Mais non, mais c'est... Mais Mario, pourquoi on serait pas comme Vegas? On peut pas juste dire, ah, OK, tu sais, c'est comme, mettons, je te donne
Vegas,
un exemple.
C'est Vegas, quelqu'un qui va...
Mais ils ont déjà dit ça, je les ai entendus dire ça en onde avec toi.
Oui,
oui. Ah, mais ça, c'est Vegas. Nous autres, on peut pas faire ça. Attends un peu, là, excuse-moi, là. C'est-tu parce que Apple sort un MacBook ou un iPhone 13 que l'autre sur Android, là, il va abandonner? Ben non, il faut qu'il combatte. C'est ça, la concurrence. T'es dans une business d'aller chercher l'attention puis le portefeuille des gens, puis d'aller chercher leur amour puis leur émotion. Il n'y a pas d'abandon là-dedans, là. Il y a pas de, on n'acquiesce pas, on dit pas « OK, correct, on peut pas faire mieux que ça, nous autres, on n'est pas à Vegas. » Voyons donc. Non, mais honnêtement, c'est pas possible de penser comme ça. C'est une business de marketing. Le sport, c'est une business de générer des revenus, garder les gens au rendez-vous, qui consomment, qui dépensent de l'argent, de l'énergie, de l'émotion, qui suivent le club, qui achètent des chandails, des casquettes, qui portent les couleurs, sont toujours connectés au club. Ça, c'est ce qu'on appelle l'engagement. C'est la même chose que... Tu peux pas arrêter à un moment donné de dire, ouais, ben, on va concéder, là, le premier rang, on va se contenter du 2e ou du 10e ou du 20e. Désolé, là, mais ça marche pas comme ça. Pas dans une business aussi complexe que le sport et aussi cher à consommer.
Tu parlais de créer du momentum. La NFL a créé... Ah, juste avant, c'est vrai. Un mot sur Tempe en Arizona, parce que la NFL passe sa saison avec beaucoup, beaucoup de momentum.
Ouais.
Arizona, deux questions en une. On va résumer ça bien vite, parce que je trouve que c'est un sujet, moi, pour moi, ceux qui laissent croire aux gens que le club va déménager. Est-ce qu'il se pourrait qu'au pis-aller, il y ait besoin d'un domicile temporaire, les Coyotes, avant qu'on construise un nouvel amphithéâtre, Rick?
Ben, ils ont déposé un projet concret cette semaine là, de 1,7 milliard. C'est un développement immobilier à Tempe. Tempe, c'est une banlieue très, très proche du centre-ville de Phoenix. Ils voulaient se rapprocher du centre-ville. Ben, leur souhait va être réalisé. Ça va prendre une couple d'années. 1,7 milliard de l'argent privé, sauf 200 millions qu'ils veulent de taxes, loisirs et récréation. Alors, voilà un exemple d'un projet qui va pas coûter les yeux de la tête aux payeurs de taxes, aux concitoyens, qui va prendre une forme que les Coyotes semblent croire. Puis ils pensent qu'eux autres, en se rapprochant du centre-ville, ça va augmenter l'assistance, la capacité, puis ça va faire en sorte que c'est une équipe plus solide établie. Bon, alors ça, c'est le dossier. La question là-dessus, à savoir si cette équipe-là va mettre un terme à toutes les rumeurs perpétuelles sur un déménagement possible parce que c'est une équipe, une franchise relativement faible, la réponse est oui, parce que si tu t'engages pour une entente comme ça, à 1,7 milliard de dollars. C'est certain qu'eux autres ne bougent pas pour les 25 prochaines années. On peut mettre un X là-dessus. Alors, ça, c'est important stratégiquement pour cette organisation-là. C'est un peu une certaine forme, Mario, de confirmation pour Gary Bettman qui a bien fait de patienter.
Puis il y a un nouveau propriétaire là-bas aussi, là, tu sais, hein, le propriétaire donc a ses intentions-là, Ray. Oui. Si c'était une équipe encore en tutelle, ça serait différent. Mais il y en a un, nous autres, on le connaît peu. Là,
oui, c'est M. Meruelo, qui lui est un local avec des intérêts locaux, avec des origines hispaniques, latines. Son président d'équipe, M. Gutiérrez aussi. C'est important, là, ces racines-là, dans ce cœur-là du désert de l'Arizona. Fait que ils font des bonnes choses. Ils ont besoin de faire plus côté mise en marché pour coller les gens à ça. C'est un marché compétitif, là, Phoenix. C'est la moitié de la taille de Montréal. C'est une équipe de la NFL, de la NBA, du baseball majeur puis du hockey. C'est une destination de paradis de golf. Et écoute, il y a plein de choses. Alors, t'as plein de choses de te divertir, puis les Coyotes sont un peu en souffrance vis-à-vis les autres. Mais tu vois qu'ils s'investissent en permanence pour cimenter des liens avec le public là-bas.
Et donc, pour finir là-dessus, tu vois-tu bien des empêchements qui vont faire qu'on va encore parler de leur projet à Tampa dans 10 ans? Ou, ça,
non.
Parce que tous les projets, on dirait que ça n'aboutit pas. Là, celui-là, tu penses qu'il va aboutir?
Il y a un autre projet qui se déroule en même temps. Là, c'est les Clippers de Los Angeles qui veulent sortir du Staples Center, où ils sont un peu colocataires avec les Lakers et les Kings. Mais le Staples Center, c'est le domicile des Lakers, de Kobe Bryant, de Shaquille O'Neal à l'époque, puis aujourd'hui encore de LeBron James. Fait que les Clippers, c'était comme toujours des deuxièmes citoyens. Bon, là, eux autres, là, Steve Ballmer, qui était autrefois le cofondateur, chairman de Microsoft avec Bill Gates, il a beaucoup d'argent, lui. C'est le propriétaire de sport le plus riche en Amérique du Nord, en termes de sa valeur personnelle. Mais il a décidé de se bâtir sa propre arena à Inglewood, pas loin de l'ancien forum de Los Angeles où jouaient Luc Robitaille, puis Marcel Dionne, puis Rogatien Vachon à l'époque. Là. Alors, ça s'appelle le Intuit Arena. Et eux autres, Intuit, c'est une compagnie qui investit dans le naming rights, les droits de dénomination, 500 millions qui ont accepté de payer au cours des 23 ans. Ça veut dire, Mario, qu'il y a de l'argent encore de grandes entreprises qui veulent se positionner pour mettre leur nom sur un édifice, un immeuble, puis je vois la même chose arriver pour les Coyotes d'Arizona aussi. Donc finalement, cet argent-là va revenir vers eux. Ils vont se le payer, leur aréna. Ça coûte cher, ils veulent être modernes, ils veulent être une équipe qui va attirer des agents libres, des joueurs de d'autres équipes, où ça va être difficile d'aller jouer parce qu'il va y avoir une grosse foule, mais ça va être agréable de jouer comme équipe locale là-bas. C'est ça le plan long terme des Coyotes d'Arizona.
Et alors, Austin Matthews va arriver là en 2024-25 après son contrat de 5 ans et les Leafs de Toronto. Il dit, bon, j'ai fait de ma part, j'ai été loyal. Là, je
m'en non, mais c'est vrai, c'est tout à fait possible.
Ben, il pourrait avoir un impact en Arizona. Je veux dire, tu peux pas avoir l'impact que Gretzky a eu, là.
Mais il est originaire de là.
Dans une autre ligue, mais il pourrait avoir un impact, ça,
oui,
c'est sûr.
Oui, puis il y a des jeunes qui jouent hockey en Arizona plus que jamais. C'est un peu comme l'effet au Texas des Stars de Dallas à la fin des années 90. Les Kings de Los Angeles avec l'arrivée de Gretzky. Tu sais, ces développements de nouveaux marchés non traditionnels, Mario, ça continue d'aller bien, là, pour Bettman pour la Ligue nationale de hockey.
NFL maintenant, tout un début de saison. Tu sais, ça a commencé avec le match des Bucks et Brady contre les Cowboys de Dallas. C'était assez explosif, il y a eu des matchs en prolongation, mais la business de la NFL, dans l'ensemble, ça va plutôt bien, Ray, sur le front, oui?
Oui, moi j'ai rarement vu, là, ça fait 50 ans que je regarde la NFL, Mario, là, ça te donne un peu l'idée de mon âge, là, mais je te le dis, là, j'ai rarement vu deux semaines aussi incroyables, là, du premier match jeudi avec Tom Brady puis les Buccaneers contre les Cowboys, qui était extraordinaire comme match avec le retour de Dak Prescott. Les audiences sont en hausse de 14% versus l'an dernier. Une moyenne de 17,7 millions de téléspectateurs après deux semaines. Tu as eu le match Giants contre Washington Football Team. Rappelle-toi le match Vegas contre Baltimore. Puis aussi Baltimore contre Kansas City en fin de semaine, 34-35. Non, mais c'est extraordinaire, là. Les jeunes jouent bien. Les corps arrière envoient des passes de toucher partout. Ça explose au tableau indicateur. Et les audiences à la télé reflètent ça. Faut se rappeler qu'en 2020, la NFL, l'an dernier, écoute, ils ont été courageux, ils ont essayé d'y aller au maximum. Il y avait 20 000 spectateurs dans les... Mais ils étaient face à face à la télé avec les élections présidentielles, avec le US Open en retard de quelques semaines, avec les playoffs de la NBA puis de la Ligue nationale de hockey. Il y avait du stock, là. Ouais, ça n'existe pas cette année. Fait que les gens sont de retour à la NFL excellent début de saison sur le plan business pour la ligue la plus riche. Ils ont ouvert les bureaux de NFL West à Los Angeles, justement, dans le SoFi Stadium. Mario, la NFL continue, là. Tu sais, ça demeure toujours le combat de pertinence entre la NBA et la NFL. Mais une chose qu'on ne peut pas disputer, j'adore la NBA, mais le football, c'est le sport le plus populaire en consommation en Amérique. La NBA est beaucoup plus populaire comme sport mondial. Mm-hmm. Parce que tout le monde joue au basketball dans le monde. Les gens ne jouent pas tous au football américain. Mais aux États-Unis, là, c'est un combat à sens unique entre la NFL et la NBA.
La NFL, pourrait-on dire que la NFL, auprès d'une majorité d'Américains, là, le lien qu'ils ont avec ce produit-là, c'est comme ici avec le hockey?
Oui, c'est exactement ça. Sauf que c'est comme un produit national. Tu sais, si t'es à Green Bay, t'aimes les Packers. Mais Mario, les Packers jouent une fois par semaine. Tu vas regarder les autres matchs pareils.
Exact.
Ça, là, c'est une différence énorme entre notre culture de consommation au hockey. Tu sais, moi, je ne regarderai pas toujours les matchs des Flames. Tu sais, je ne regarderai pas toujours les matchs des Canucks.
Non.
Mais dans la NFL, évidemment, tu as moins de matchs. Tu as un par semaine. Tu as le Thursday night. Tu as le Sunday night. Tu as le Monday night. L'an dernier, Mario, il y avait le Tuesday night. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours de quoi NFL à la programmation. Puis les gens, quand leur équipe a joué, ben, ils se tournent vers un autre match. En passant, là, le week-end dernier, Baltimore contre les Chiefs, le match, tu sais, entre deux aspirants, là,
ouais,
ça a fait 16,1 millions. C'était deux fois le nombre de gens qui ont regardé les Emmys en même temps à la télé américaine sur CBS. Donne une idée de l'importance du football. Puis les Emmys, là, c'est pas les Oscars, mais c'est tout juste derrière.
Mais non, ça n'a rien enlevé à personne dans les galas qui étaient présentés autant ici qu'aux États-Unis dimanche soir. En tout cas, quand tu es un amateur de sport, tu tournes les postes, tu tombes sur l'affrontement qu'on avait là. Je veux dire, c'est terminé. Là.
Combat fini, knock-out.
On regardera le résumé demain à côté de la météo, voir qui a gagné quoi. Puis félicitations à tout le monde. Là, c'est rien de méchant. Et d'ailleurs, j'ai des amis qui ont gagné des prix. Je les en félicite. Un grand moment pour eux. Mais oui, c'était pas piqué des verres comme affrontement, d'ailleurs. Et au niveau de la symbolique, si on glisse vers le sport un petit peu, c'était important qu'ils gagnent. Les Ravens, ce match-là.
Ouais. Oh, ouais,
ça, t'sais, c'est qui? C'est Bruno Eppel qui me disait ça au téléphone cette semaine dans une conversation. On n'a pas eu Bruno en onde cette semaine, mais t'sais, à un moment donné, t'sais, Peyton Manning contre Tom Brady, à un moment donné, il y en a un qui fondait devant l'autre. Puis si Mahomes et les Chiefs continuent de battre Lamar Jackson et les Ravens...
Il était 0-3 contre les Chiefs, lui-même, là. Puis Dieu sait qu'il est capable de dominer n'importe quelle équipe, mais il avait été frustré constamment par la qualité de l'équipe des Chiefs. Alors, c'était une victoire importante moralement et pour leur confiance parce qu'ils vont probablement se retrouver à quelque part en fin de saison. L'autre chose que je t'ai dit, là, je pense en ondes, il y a quelques semaines, c'est le nouveau mégacast avec Peyton Manning puis Eli Manning.
Oui, on en a parlé, oui.
Qui est sur TSN 3. Ben, première semaine, 800 000 auditeurs. Là, ça a pogné très fort. Deuxième semaine, en hausse de 138%.
Boy.
Ça a fait presque 2 millions de téléspectateurs qui ont regardé ce qu'on appelle aujourd'hui la télé alternative. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à côté? Pendant que tu regardes le match, tu écoutes ces deux gars-là aller. Ça s'appelle du bonbon, du divertissement.
Mais moi,
il n'y a pas personne qui a égalé ça encore dans le sport.
Le show, là, bon, mais c'est comme moi, c'est le genre de show, Ray, que j'ai plus envie de regarder après les faits saillants. Parce que moi, si tu me donnes le choix de regarder, exemple, puis RDS, ils font de quoi d'intéressant deux matchs? Je ne dis pas, je regarde pas. Mais moi, c'est le match. Puis c'est un peu dans le même moule, là, les frères Manning. Moi, au moment que le match se déroule, je ne sais pas c'est qui le profil du téléspectateur qui préfère entendre des gens parler du match que de regarder le match autant au football que je serais très curieux de savoir ça.
Mais c'est certain que c'est plus modeste vis-à-vis le consommateur traditionnel qui regarde à l'écran sur un écran de 60 pouces, là, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que la télé alternative, c'est comme une combinaison d'autres partisans qui veulent plus que la game ou qui ne sont pas autant intéressés à l'aspect du jeu, parce qu'ils comprennent peut-être moins, ils sont peut-être du côté des apprentis, des novices dans le football. Mais tu te fais divertir par les deux gars, parce qu'ils ont de bonnes personnalités, ils sont dynamiques, émotifs, enthousiastes, passionnés, et ils ont des Super Bowl des bagues du Super Bowl dans leurs doigts, là. Ils ont tout fait, ces deux-là. Puis ils sont vraiment agréables, les gens les adorent beaucoup. Même s'il y avait des temps où on choisissait Brady versus Manning, Peyton Manning, tu peux pas l'aimer, là.
Mm-hmm.
À chaque fois qu'il est drôle, il se moque de lui-même un peu.
Ah, il est vraiment un clown.
Non, vraiment.
Moi, je l'aime bien mieux aujourd'hui que l'image qu'il dégageait comme joueur. Je sais pas pourquoi. Je connectais pas avec. Puis là, je veux dire, il a l'air du plus sympathique des gars. Non, vraiment, vraiment.
Ça donne de la bonne télé.
Vraiment.
C'est bon pour l'essayer au moins.
Vraiment. Ben, Ray, en tout cas, les dernières minutes, je trouve ça a donné de la bonne radio. Je te remercie beaucoup. Belle prestation, des commentaires fort pertinents, beaucoup de réactions sur la messagerie texte que je vais aller lire après la pause. Je te souhaite une bonne fin de soirée.
Toujours un plaisir, Mario. Merci à toi.
À bientôt. Plaisir partagé. C'était Ray Lalonde. De retour dans un instant.